Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Judaïka. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Il est 20h et comme tous les lundis soirs, on retrouve, on joue la prolongation et tout de suite, on va commencer. Tout de suite, on va commencer une fois que c'est vrai. Alors Samuel, on va vous dire bonjour pour commencer parce que je ne trouve pas le. C'est bon, je l'ai trouvé. Générique tant attendu, vous l'avez attendu depuis quelques semaines maintenant. La semaine dernière, on n'a pas pu émettre à l'antenne de la radio. Et donc, on vous retrouve pour une nouvelle année de football sur Radio Judaïka. Une année de football, eh bien, qu'on va commencer dès aujourd'hui avec notre premier chroniqueur à présenter. Et comme tous les lundis, il va nous apporter son sens de l'analyse de ce qu'il se passe sur et en dehors du terrain. Le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize, c'est bien sûr Alex Demeter. Salut Alex, ça va ?
Ah Blaise, salut, super. Une nouvelle année de foot, de sport, donc ça va pour le mieux et bonjour à Sam à distance.
Bonjour à Sam à distance, justement, vous vous êtes bien rendu compte que ce n'était pas la voix habituelle qui était derrière ce micro, en effet, Samuel, aujourd'hui, vous allez officier dans un rôle différent, Samuel, aujourd'hui.
Absolument, merci, Blaise d'abord. Les commandes de l'émission, je vais essayer de me mettre au niveau des chroniqueurs habituels, mais effectivement, c'est pas moi qui aurai la charge de pousser les manettes. J'aime bien cette musique. Très bien choisi.
Je vous avoue, Samuel, ce n'est pas moi qui l'ai choisi.
Étonnant, étonnant. Je suis très content d'être là, à distance, mais d'être là, et on va pouvoir parler de la reprise et un peu de tout ce qui se passe en Europe. Ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas parlé. Ça va être c'est sympa de se retrouver.
Vous allez très bien, j'imagine, avec le résultat de ce week-end. On rappelle Paris qui a gagné 2-0 face à Lens dans l'affiche de la journée. Un but de Kylian Mbappé étrange et un but de Bradley Barcola. On va commencer avec le programme de ce soir. On va évidemment commencer comme tous les lundis par le Belge de la semaine. Ensuite, on parlera de la reprise en Pro League avec le programme de la prochaine journée, le bilan du mercato, l'arrivée de Ivan Leko sur le banc du Standard de Liège. On parlera de la reprise en Europe, principalement de la Ligue 1. Il y a un classico entre le Real et le Barça, remporté 4-1 par le Real Madrid. Et puis c'est un mois de janvier qui sera marqué par la Coupe d'Afrique des Nations et Coupe d'Asie. Et puis tous les lundis avec vous Alex, on parlera de la minute marketing sportif au cours de la minute Sportimize. Quelques indices sur le sujet de la minute d'aujourd'hui ?
On va commencer avec du sponsoring en FA Cup.
Eh bien voilà, du sponsoring en FA Cup.
Et j'ai envie de dire, Blaise, avant de commencer, Sam est à distance, mais on a aussi, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, un nouveau logo.
On a un nouveau logo, c'est vrai, pour cette nouvelle année, pour les gens qui veulent absolument le voir. Eh bien, vous vous rendez sur la page Facebook Radio Judaïka et sur la page YouTube aussi d'ailleurs. Et vous pouvez nous retrouver en vidéo sur votre télé connectée. Il est 20h05, c'est l'heure du coup d'envoi. Et c'est parti, cette nouvelle prolongation que l'on joue ensemble. Et on va commencer par le Belge de la semaine.
Ouais.
Alex, ton Belge de la semaine.
Eh bien, il a déjà été Belge de la semaine par le passé. En tout cas, je l'avais déjà nominé. Et c'est celui qui a fait le format de la D1B, parce que la D1B a repris ce week-end avec des résultats on ne peut plus spectaculaires. Donc, le Young Genk, les jeunes de Genk, ont battu Danes, qui est comme une équipe qui veut monter en D1. Ils les ont battus 3-2. Les Francs Borin ont été battus Serein 1-5. Ostende, c'est farci Waregem. Ils ont battu 3-2. Ostende, ils ont eu 10 points de retrait pendant la trêve suite à des problèmes financiers. Dender a été gagné 2-4 au Lierse. On a SK Beveren qui a été gagné 1-4 à Liège. Il y a le Beerschot et Anderlecht qui ont partagé. Donc tu l'entends déjà, il y a énormément de buts. Il y a énormément de suspense, surtout parce que le Beerschot est en tête avec Dirk Kuyt comme nouveau coach, l'ancienne star de Fenerbahçe, de Feyenoord et des Pays-Bas. Et tiens-toi bien, le Beerschot a 33 points. Zulte Waregem est deuxième avec 32 points. Dender, qu'on n'attendait jamais là, est troisième avec 30 points. Danes, quatrième avec 29 points. Donc, t'imagines, s'ils avaient gagné, ils étaient deuxième d'une place pour être promus. Beveren, ex aequo, cinquième, 29 points. Le FC Liège, qui vient d'être repris par des Américains, a 28 points. Lommel a 28 points. Et le Patro Maas Mechelen a 28 points également. Donc, entre le 8e et le 1er, tu as 5 petits points. Et donc, ce format est on ne peut plus palpitant, on ne peut plus intéressant, avec des buts à n'en plus finir tous les week-ends.
Eh bien, c'est un très beau coup de projecteur sur ce championnat que, eh bien, on n'a pas forcément tendance à regarder. Et c'est souvent là qu'il y a du beau football. Samuel, je me tourne vers toi. Quel est ton Belge de la semaine ?
Alors, je vais te donner mon Belge de la semaine. Je veux savoir, est-ce que le logo, le très beau logo, on peut dire par qui il a été confectionné, il a été fait ? On va le dire, c'est Alex lui-même. Est-ce qu'il apparaît bien derrière Alex ? Parce que je t'avoue que je te suis en caméra et je ne vois que toi.
Ah oui, Samuel, il apparaît bien. Tout est parfait dans le studio.
Eh bien, moi, mon Belge de la semaine, c'est pas une surprise. C'est le revenant, un revenant, Kevin De Bruyne, bien sûr. Il a été absent tellement longtemps, 5 mois. Il avait joué un tout petit bout de match lors de la première journée de Premier League. Et puis, il est revenu. Il a passé son premier match de reprise sur le banc. Et là, il est entré et il a tout simplement égalisé. Son club était mené à un quart d'heure de la fin. Il est parvenu à égaliser avant de donner un assist au jeune Oscar Bob pour la victoire de Manchester City. On avait vu depuis le début de la saison que Manchester City tournait plutôt bien quand même, malgré l'absence de Kevin De Bruyne, même s'ils étaient évidemment moins dominateurs qu'ils l'ont été avec lui. Et bien là, avec son retour, je pense que les pendules risquent d'être remises à l'heure bientôt. Arsenal, on savait que c'était peut-être, ça allait peut-être pas durer aussi longtemps qu'ils l'espéraient pour viser le titre. Ça semble se confirmer, ils ont un petit peu perdu du terrain. Un duel avec Liverpool s'annonce des plus probables. Et avec le retour de Kevin De Bruyne, je pense que City est très bien armé pour gagner, pour conserver son titre.
Un Kevin De Bruyne avec un nouveau style capillaire qui lui va relativement bien, je trouve, je dois l'avouer. Il fait un peu plus homme. J'avais aussi envie de mettre Kevin De Bruyne, mais j'aimerais bien, vous savez que je suis particulièrement le championnat de France de Ligue 1, j'aimerais bien mettre la lumière sur la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, Malik Fofana, qui est arrivé en provenance de la Gantoise, et pour une somme de 17 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire dans le championnat de France de Ligue 1. On va le suivre. Peut-être que ce sera lui, l'homme du renouveau lyonnais, malgré la défaite de ce week-end.
Ce qui est intéressant, c'est que Gand en a profité pour renflouer les caisses, parce qu'il y avait un manque de cash flow du côté des Buffalo. Mais surtout, il y a eu Elvan Hazebrouck qui n'est pas... Ses sorties ne sont pas passées inaperçues en disant... En attaquant même le sélectionneur national, de ne pas le prendre, sinon il valait 35 millions. Pas passé inaperçu, mais je suis comme toi très curieux de voir ce qui va se passer. Et effectivement, après la défaite chez un autre Belge des autres semaines, des années précédentes, Lucas Elsner, qui fait un bon travail au Havre aussi.
Excellent travail.
Ancien entraîneur en Belgique.
Exactement, et aussi, effectivement, oui, il a entraîné en Belgique, et à Amiens aussi, si je me souviens bien. 20h et 10 minutes sur Radio Judaïka, vous êtes bien dans On joue la prolongation, et tout de suite, on va se reconcentrer sur notre pain blanc, si j'ose dire, comme cela, la Jupiler Pro League. Alors le championnat y reprend donc le week-end prochain, ce sera la 21e journée. Avant de détailler le menu de cette 21e journée, on va revenir sur les infos transferts qui ont animé la Belgique depuis la trêve. On commence avec la nomination de Ivan Leko à la tête du Standard, nommé le 4 janvier en remplacement de Karl Hufkens. Troisième banc belge sur lequel l'international croate va s'asseoir, avec pour mission de redresser le Standard. Alex, bonne ou mauvaise idée ?
Ivan Leko comme coach est toujours une bonne idée, je trouve. Non, tu rigoles, mais,
non, mais
disons que quand il était coach, il faut se souvenir, en 2016, Saint-Tron lui a donné sa chance. Personne ne s'y attendait. Saint-Tron a quand même presque été gagné les play-offs 2 avec Ivan Leko. De là, il a été à Bruges. Première année en tant que coach dans un top club. Bruges qui sortait avec Michel Preud'homme d'un titre, le premier 11 ans. Ivan Leko a quand même été champion. Bruges a été champion 2 fois consécutivement aussi grâce à Ivan Leko, et la troisième année il échoue à quelques points du titre également en étant deuxième. Donc pour un coach qui sort de ça, franchement chapeau. Et donc je pense avec sa grinta, avec son savoir-faire, avec ses qualités, ça fit avec le Standard en tous les cas. Maintenant, est-ce que le matériel sportif, c'est-à-dire les joueurs, sont encore suffisamment bons, et est-ce que le club ne va pas aussi connaître, comme on le parlait d'Ostend là tout de suite, une soustraction de points? Ça, c'est d'autres questions, mais en tout cas, en tant que coach, je pense que c'est toujours une bonne idée de prendre un Ivan Leko.
Tu mentionnais ces 2 années à Bruges, il avait une toute autre équipe quand même.
Je ne dis pas que le Standard va être champion, mais je dis qu'en tout cas, il a un certain savoir-faire, et il sait surtout motiver ses troupes et avoir une certaine grinta. Et je pense avec les années, il y a sa naïveté offensive qui est un tout petit peu retombée aussi, parce que voilà, à Bruges, il a survolé le championnat sa première année. Mais vraiment. Mais ça, je pense que sa naïveté a un peu disparu, et que donc il y a les qualités défensives de son équipe, il pourra les mettre en avant aussi pour ne pas foirer. Donc pour moi, c'est un bon choix.
Samuel, justement, le Standard, ils sont 9e avec 23 points là. Toi, tu penses que Ivan Leko, c'est l'homme de la situation ?
Moi, je pense. Alors, je suis assez d'accord avec Alex sur les qualités d'Ivan Leko. Il a l'expérience du championnat. En plus, il a une expérience victorieuse, puisque à l'Antwerp, il avait gagné la coupe, me semble-t-il aussi. Donc, il va pas arriver en terrain inconnu comme ça peut être le cas. On sait, on connaît les conséquences du changement d'entraîneur. Il y a toujours une espèce d'appel d'air, une spirale positive dans les premiers matchs. Et après, ça peut retomber. Je lisais les interviews, alors c'est assez, notamment Arnaud Bodard, on pourrait prendre quasiment toutes les interviews de tous les joueurs, de tous les clubs qui viennent de découvrir un nouvel entraîneur à la trêve, c'est à peu près toujours pareil. C'est avec lui, on travaille plus, il fait de la tactique, tout a l'air beaucoup mieux tout le temps. Je suis assez d'accord avec l'idée que c'est un bon fit, sans doute. Après, est-ce que les joueurs sont pas usés? Il va falloir qu'ils trouvent le ressort mental, parce que ça fait quand même quelques saisons qu'ils changent de coach, qu'ils espèrent qu'ils déçoivent, qu'ils réespèrent qu'ils redéçoivent. Alors ça peut être le bon fit. On sait que c'est souvent périlleux. On change d'entraîneur à la trêve, on espère plein de choses. L'entraîneur vous dit qu'il n'a pas exactement les joueurs qu'il aimerait avoir pour mettre en place le football qu'il voudrait. Bon, en ce qui concerne le Standard actuellement, je pense que ils sont à 2 points du play-down, hein, donc c'est quand même espérer à ce stade de la saison autre chose que de finir dans le ventre mou. Ça peut être, je pense que c'est bien, et avec ça, Leko va sûrement faire le boulot. Il va sans doute aussi peut-être faire un petit peu de ménage. Je ne sais pas si Alex a des infos. Est-ce qu'il y aura un peu d'argent pour acheter, pour compléter l'équipe du Standard à la trêve?
Pour l'instant, il n'y a surtout pas d'argent.
Il n'y a pas d'argent du tout, voilà. Donc c'est,
pour l'instant, en termes d'argent, l'arrivée des Américains et de 777 Partners, c'est vraiment pas une réussite.
Mais j'ai l'impression, à part Kaiser Slaughter l'année passée, c'est une réussite nulle part. Là, il faut dire ce qu'il y a.
Ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Mais par contre, tu parles du ventre mou, mon cher Sam. Il n'y a pas de ventre mou. Enfin, si, il y a une équipe dans le ventre mou. Mais là, tu as le top 6 joue les playoffs pour le titre. Et tu as, tu as Cercle de Bruges, ils sont 7e, à 1 point de l'Antwerp qui est 6e, et à 3 points de Bruges qui est 5e à Execo avec Genk. Donc, pour moi, ces équipes prétendent encore pour les sont encore prétendants pour les playoffs 1. Et puis, tu as Saint-Tron qui a 27 points, qui est loin des playoffs 1, mais loin de la dégradation aussi. Et puis, comme tu dis, tu as le Standard qui est à 2 points des play-downs. Mais pour le Standard, on va très très vite le savoir parce qu'ils affrontent Courtrai, RWDM, Westerlo et OHL dans les 5 premiers matchs avec un autre contre l'Antwerp et Cercle de Bruges juste après. Donc, on va très très vite voir clair.
Voilà, il est peu probable qu'ils réussissent à se propulser dans le top 6. Ce serait là pour le coup un exploit, mais je suis d'accord avec toi, s'ils négocient bien. Les matchs à venir, les tout prochains matchs à venir, ils devraient s'en sortir. Rappelons que par rapport à d'autres championnats, on joue la 21e journée, mais il n'y a que 30 journées. Hein. On a plus que 10 matchs à jouer. Et pour pas mal d'équipes, pour 6 équipes, le championnat s'arrête dans 10 matchs. Je pense qu'ils réussiront à se mettre à l'abri, hein. Il n'y a pas de raison. Mais effectivement, les tout premiers matchs à jouer contre des adversaires directs ou presque vont être déterminants sur le classement final qu'ils atteindront à la fin de la saison.
On va passer aux principaux. Quelque chose à ajouter sur le Standard, Alex, ou on passe aux principaux transferts ?
Non, moi j'espère que le Standard, évidemment, se sauve. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une équipe qui doit retrouver la D1B. Ça reste un club mythique. C'est un club que tout le monde veut voir jouer aussi, donc n'espérons pas. Et puis voilà, on souhaite bonne chance à tout le monde là en bas, mais ça va vraiment être très corsé.
Alors du coup, on passe donc aux principaux transferts qui ont déjà enregistré. Comme souvent, c'est surtout au niveau des transferts sortants que la Pro League se distingue. On a parlé de Malik Fofana, qui est donc parti de la Gantoise pour aller à Lyon pour 17 millions d'euros. On a aussi Tyjon Buchanan qui est parti de Bruges pour aller à l'Inter, 7 millions d'euros. C'est une grosse perte pour Bruges ?
Je ne pense pas. Ça va assainir le vestiaire. Mais après, c'est un transfert qui était déjà prévu cet été dans les coulisses. C'est pas tellement sorti, mais ça fait plus d'un an. Depuis la Coupe du Monde, l'Inter voulait Buchanan. Mm-hmm. Cet été, il a failli y aller, mais Bruges était en une fois avec un problème, puisque Mata partait aussi. Et donc, l'accord était fait pour aller en janvier. Mais Buchanan ne s'est pas forcément démarqué durant cette première partie de championnat. Donc, bon vent à lui, on va dire. Et,
Moi, je pensais qu'il allait être vendu un peu plus cher, moi.
Pour un joueur qui n'a quasi rien prouvé, c'est déjà pas mal.
C'est vrai qu'il a été très prometteur quand il est arrivé, Buchanan. On a parlé pas mal de fois ici avec le système tactique qui a été mis en place. Il s'est souvent retrouvé dans une position de back droit, plus ou moins, qui ne doit pas être exactement... qui ne sied pas forcément à toutes ses qualités. Et donc, il a effectivement été un peu terne depuis le début de la saison. Comme tu le disais, Alex, de toute façon, ça fait partie du rythme et du cycle de pas mal de joueurs à Bruges. On les achète, on les revend. Moi aussi, je suis un peu déçu. Le montant ne me paraissait pas incroyable, alors qu'effectivement, il n'a peut-être pas prouvé grand-chose, mais il était... Il est prometteur, il était à la Coupe du Monde avec le Canada. Bon, bah écoute, il sera sans doute, on espère pour lui en tout cas qu'il ne va pas cirer le banc à l'Inter et qu'il va trouver du temps de jeu. Parce qu'à 24 ans, c'est vrai que c'est toujours intéressant de poursuivre sur sa lancée. Et même quand on monte d'un étage, en tout cas, ne pas restreindre son temps de jeu. Mais c'est vrai que 7 millions par rapport aux 17 dont on parlait sur Malik Fofana, c'est étonnant. Alors Fofana, il est tout jeune, il a 18 ans, il a joué une trentaine de matchs, je crois, en pro maximum. Et l'Olympique lyonnais met 17 millions. On espère pour les Lyonnais que la pioche sera meilleure que celle du dernier joueur venant de Pro League qu'ils ont recruté. Et c'est Mata, qui était d'un niveau largement supérieur à Bruges que ce qu'il montre à Lyon, je crois. Mais voilà, c'est un transfert étonnant à un niveau surtout très, très élevé qui est aussi étonnant.
Et aussi Jacob Bryan qui est arrivé hein, cet été du RWDM du côté de Lyon, qui s'est fait exclure ce week-end. Alors, on a la classique John Textor, propriétaire du RWDM, qui a fait passer un joueur de Botafogo au RWDM, Carlos Alberto, ailier droit qu'on va donc découvrir ici en Belgique. Espérons que, eh bien, que ça puisse fonctionner pour lui dans les
autres. Il a un vrai nom de footballeur brésilien, hein, Carlos Alberto, le capitaine de l'équipe du Brésil de 1970. Voilà, c'est.
En parlant de vrais noms et de transferts, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau transfert entrant du côté du RC Lens, un dénommé Staline Chavez. Voilà, ça m'a fait rire. Dans les autres transferts qu'on a, donc on a Haruya Fuji qui arrive à Courtrai. On a Felipe Augusto qui arrive des Corinthians au cercle de Bruges pour 3 millions d'euros. C'est un chouette investissement. Yann Gbo qui comment
t'as Monaco derrière hein.
Ah oui bah oui, oui effectivement,
finalement c'est la tactique de beaucoup de clubs, c'est comme à l'Union, c'est pour ça qu'Amoura est venu, parce qu'on lui dit tiens voilà, tu as quand même une belle passerelle vers la première ligue, vers Brighton, et donc comme avec Undav hein, finalement le meilleur buteur de Belgique de l'Union signe à Brighton pour 7 millions, ce qui est 3 fois moins que le marché le prévoit, et après Brighton le prête et le revend à Stuttgart ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est des tactiques de holding de clubs qui se font de plus en plus en attendant que ça soit interdit par l'UEFA.
On a aussi
sur le coup, il y a un club qui est quand même qui pourrait s'estimer lésé, même si dans l'esprit du holding, certes, ça profite à tout le groupe, mais un par un, les clubs peuvent être lésés au profit de clubs plus importants du groupe. Et c'est vrai que ce serait dommage que ce soit ce qui arrive aux clubs belges quand ils font partie d'une galaxie comme ça. Alors ils en profitent, c'est vrai, on l'a dit, avec l'Union, quand l'Union peut récupérer des super joueurs. Comme ceux qu'on a vu, les deux de Brighton, pas Undav, mais il y a Mitoma et celui qui jouait ailier droit l'année dernière.
Oui, Adingra.
Adingra, voilà.
Mais il y a deux manières de voir les choses. Tu as l'école qui va dire ah, tiens, oui, mais c'est bien parce que tu as des joueurs de qualité dans le championnat belge, donc ça surévalue ton championnat belge. Mais de l'autre côté, tes clubs, ils ont zéro balle avec ça. Donc ouais, tes clubs ne se développent pas, et en une fois ton investisseur étranger il part, et ton club il est là avec des dettes, avec zéro, et un peu comme c'est arrivé à Ostende, même si là ce n'est pas un étranger mais c'était Mark Cook, et le club se retrouve au bord de la faillite depuis un an et demi avec soustraction de points, pénalité, interdiction de transfert, jouer à huis clos, des trucs comme ça. Donc,
et puis tu crées pas grand chose, c'est des mecs qui restent un an, qui font leurs 20 buts, et puis qui partent, comme tu le disais, vers l'Eldorado de la première ligue. Et bon, on sait par exemple, on sait que l'Union a cette espèce de lien avec son public, tout ça. Au bout d'un moment, si les mecs passent un an à chaque fois et qu'ils montrent pas vraiment d'attachement au club, on va perdre cet attachement. Justement, est-ce que vous avez vu passer des rumeurs de transfert sur la Pro League ?
Oui, moi j'en ai une. Enfin, je pense que ça a l'air d'être confirmé. David Souza, en provenance de Botafogo aussi, qui arriverait au RWDM.
tiens, étonnant.
Voilà. Il était passé par le cercle de Bruges. Donc voilà, un nouveau Brésilien de Botafogo. Sinon, écoute, j'ai pas grand-chose d'autre.
Bon ben on va passer au terrain alors, Samuel. Vendredi, la Gantoise Mechelen à 20h45, samedi Genk Cercle de Bruges à 16h, Club de Bruges Westerlo à 20h45, Standard Courtrai à 18h15, et puis dimanche Antwerp Charleroi 13h30, Union Saint-Gilloise Saint-Tron 16h, OHL Anderlecht 18h30 et RWDM Eupen 19h15. On va commencer par le haut hein. Vous pensez que l'Union conserve sa première place ce week-end?
Mais ils ont 6 points d'avance.
Ils ont 6 points d'avance, donc
il y a de fortes chances.
Non, ils reçoivent Saint-Tron. Désolé. A priori, ça devrait le faire.
Une
reprise, voilà, dimanche à 16h contre Saint-Tron, ça devrait le faire. le club de Bruges lui reçoit Westerlo. Et quant à... Tu vois, Alex, moi, je mets tout de suite le club de Bruges en adversaire principal de l'Union. Hein. Je vais être clément avec, et gentil avec Henri. Je vais aussi parler d'Anderlecht.
Pourtant, ils sont à 14 points, hein, la Bruges.
Ouais. Anderlecht va se rendre, se déplacera pour jouer au HL. Il n'y a pas de choc particulier cette semaine pour cette reprise. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y aura un impact peut-être pour certains clubs en raison des coupes de internationales qui se jouent, la CAN et la Coupe d'Asie pour certains clubs. Mais voilà, ça devrait être une journée de reprise sans trop de surprises. Et effectivement, il reste 10 matchs seulement, il reste un tiers du championnat et il va falloir ne plus perdre de temps pour ceux qui ont démarré un peu moins vite. Je pense au club de Bruges. Alex, tu penses qu'ils vont, tu y crois comme un supporter ou tu penses qu'ils vont réussir à
Mais disons que Ronny Deyla a dit pendant la trêve, lui, il veut faire le triplé. C'est-à-dire coupe, championnat, conférence ligue. Mais voilà, la coupe, déjà, on va le savoir demain soir parce qu'il se déplace à Gand. Gand qui est quand même un tout petit peu dissimé aussi avec la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique. Donc déjà là, on y verra plus clair. Mais ça, ce genre de match de demain, ça va te booster pour les semaines à venir ou pas du tout. Et comme tu disais, Bruges accueille Westerlo. Ensuite, Bruges se déplace à Charleroi. Bruges accueille Courtrai. Et après, Bruges va à l'Antwerp. Donc normalement, Bruges devrait quand même faire un 10 sur 12. Et là, pourrait être tout à fait lancé de nouveau vers cette quête du titre éventuelle. Et après, dans les playoffs, on ne sait jamais si tu es à 6 points à la fin du championnat et que ça devient plus que 3 points et en une fois tout se resserre, là tout est possible et Bruges a cette expérience de pouvoir gagner en play-off et ils l'ont déjà démontré les dernières années. Donc j'y crois moyennement, mais l'équipe devra être motivée et devra vraiment se donner à fond chaque match comme l'ADN du club le prescrit et comme on ne le voit plus depuis très longtemps.
On est à la troisième saison où l'Union est dans le top 1, 2, 4 à ce moment-ci de l'année. Après justement deux dénouements extrêmement douloureux pour eux, vous pensez que ça pourrait être la bonne cette année ?
Moi j'y crois. J'y crois parce que je pense qu'il va y avoir la fin d'une époque, d'une génération. Alors au fur et à mesure, les joueurs sont partis, mais je voyais le titre d'un journal qui disait, c'était La Poussin qui disait je veux apporter un titre à l'Union avant de partir. C'est vrai que je pense que quand Loïc Lapoussin s'y part effectivement à la fin de la saison, on aura tourné une page importante de l'histoire récente de l'Union. Et je pense que le chat est chaudé et craint l'eau froide. Je vais essayer de trouver une autre expression encore. Mais je pense qu'ils auront appris de leurs erreurs du passé. Et donc ils arriveront, je sais pas avec quelle avance ils arriveront, j'espère qu'ils arriveront avec une certaine avance pour les playoffs. Je les vois mal craquer au cours des playoffs, surtout que ils auront l'appui du stade comme on le sait, et cette fois-ci je pense qu'ils voudront pas laisser échapper le titre.
C'est vrai qu'ils ont l'air plus matures, j'ai l'impression, cette année.
En prenant l'expérience, si tu deviens moins mature, tu as un problème quelque part. Donc, ouais. C'est assez logique. On verra. Il y a la CAN qui va jouer. Il faut pas oublier qu'ils ont été en sur-régime jusqu'à présent. Hein. Donc, moment, tu payes l'addition de ce type de fatigue qui est tout à fait normal. Et voilà, beaucoup d'équipes dans l'eau ont connu un passage à vide. L'Union, pas encore. Donc, il faut voir. Est-ce que ça arrive maintenant ? Est-ce que ça arrive en fin de championnat ? Est-ce que ça arrive pendant les playoffs ? Est-ce que ça n'arrive pas du tout ?
Il faut voir ça, mais c'est vrai que la trêve en elle-même peut avoir coupé une dynamique. Alors, on va voir. Comme tu l'as dit, ils vont avoir un absent, on va en reparler, mais il y a un absent par ligne, donc important, je dirais. Donc, c'est vrai que il va falloir qu'ils soient sérieux et qu'ils continuent sur leur lancée, mais. T'as raison, ils ont été en sur-régime, ils ont perdu deux fois seulement, ils ont eu des résultats aussi heureux parfois, on aimerait bien que pour la belle histoire, ils concluent enfin par un titre de champion. Enfin, en tout cas, c'est mon cas.
On est tout pile à la moitié, il est 20h30, c'est l'heure de la Minute Sportimize. Alors on le disait en introduction, Alex, on part en championship cette semaine.
On part en championship et beaucoup d'équipes de championship jouent également la FA Cup. Et donc c'est le cas de Blackburn qu'on a connu en Premier League, qui a été champion en fait il n'y a pas si longtemps que ça, 25 ans. Et donc ils ont un joueur qui s'appelle Rory Finneran. Ça ne vous dira probablement rien.
Non.
C'est un jeune Irlandais de 15 ans. Qui a pu monter en fin de match parce que Blackburn affrontait Cambridge. Ils ont gagné 5-2 pour la petite histoire. Et disons que ça a fait stupeur en Angleterre parce que le jeune Rory Finneran n'avait pas de sponsor maillot. Et donc, on se demandait pourquoi. Et finalement, la réponse, elle est très simple. Blackburn est sponsorisé par une marque de cigarettes électroniques, ce qui est interdit aux mineurs. Et Rory Finneran est considéré comme mineur car il a 15 ans. Et donc, il n'a pas pu avoir un sponsor maillot. Donc, on avait juste le logo du club, l'équipementier et évidemment son nom dans le dos. Et ben, ça nous rapproche un peu de Belgique parce que l'Antwerp a eu le même cas de figure. Antwerp est sponsorisé par une marque de betting, Betfirst pour ne pas la citer. Et à Anvers, il y a le jeune Ilen Nikena qui a 16 ans. Et lui aussi, il n'a pas pu avoir le maillot habituel. Et donc, à l'Antwerp, ils ont été un peu plus intelligents qu'à Blackburn. Et oui, ça arrive, malgré la différence de budget. Et à l'Antwerp, notre jeune franco-nigérian jouait avec Antwerp First. Donc, il mettait quelque part la fondation anversoise, le RSBL qui aide les plus démunis ou qui incite le football dans la ville. Donc, il avait ça à la place de son sponsor. Et ça nous rapproche même encore un peu plus de ce sponsoring. On va aller encore plus loin parce qu'on a le Red Bull Salzbourg, qui était le pionnier de Red Bull en Europe. Et à Salzbourg, il faut savoir que le rookie de l'équipe, donc le joueur le plus jeune de l'équipe, porte un maillot spécial à chaque match. Et ce n'est pas sponsorisé par Red Bull, mais c'est sponsorisé par Rausch, qui est une marque de fruits, de jus de fruits autrichienne. Et donc c'est une belle activation en fait, pensée par le marketing de Salzbourg, et c'est quand même depuis 2017 qu'ils font ça. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse pour Blackburn ou pour d'autres équipes de laisser un maillot vierge de sponsor pour leurs jeunes joueurs.
Et pourtant je viens de regarder là, c'est quand même très très beau les maillots sans sponsor, je trouve.
Ça dépend lesquels.
Merci Alex pour cette minute Sportimize qu'on retrouve sur LinkedIn. Tu la postes sur LinkedIn tous les lundis soirs ou mardi matin, dépendant de ton niveau de fatigue.
Dépendant de l'actualité. Donc c'est le mardi ou le mercredi, ça se retrouve sur les réseaux Sportimize et sur LinkedIn et surtout sur Instagram également.
Et voilà. Alors si la Belgique. Oui, Samuel.
Juste dire un mot, effectivement, les maillots sans sponsor, c'est très beau. On se souvient, pendant très très longtemps, le Barça, bien sûr, avait pas de sponsor. C'était le cas également l'Athletic Bilbao, me semble-t-il. Mais de toute façon, si certains trouvent ça moche, c'est toujours plus beau, et Blaise, tu me contrediras pas, que les maillots avec les sponsors obligés, les sponsors obligatoires que les clubs français sont obligés de porter en Coupe de France et en feu Coupe de la Ligue, notamment avec ce très disgracieux Lyon, où on voyait le logo de la marque de bar chocolatée orner le maillot des joueurs de Ligue 1 et autres. Et c'est vrai que ça, c'est assez moche.
Puisque tu as cité Lyon, moi, je vais me permettre de citer Peach, parce que Peach, c'était pas mal aussi.
Voilà. Ouais. Je suis d'accord, certains sponsors, bon, c'est un peu tendancieux, c'est un peu spécial, mais là, je suis vraiment pas d'accord avec toi, Sam. Le Lyon, c'est vraiment un des maillots les plus mythiques de l'histoire. Et voilà, pour la petite histoire, comme tu sais, je collectionne les maillots. J'ai un maillot de Flandre, Eric de Flandre, quand il jouait à Lyon, avec Lyon comme sponsor en Coupe de la Ligue, porté contre Bordeaux début des années 2000. Et franchement, ce sponsor est mythique et magnifique. Et avant ça, il y avait Axe aussi. Donc c'était vraiment axé sur les jeunes à cette époque. Mais franchement, ils étaient beaux, je suis désolé.
Et aussi, puisqu'on est là-dessus aussi, à cette époque... La Fédération Française de Foot était sponsorisée par la marque à trois bandes et tous les clubs, qu'ils soient la virgule ou la marque à trois bandes, avaient des maillots de la marque à trois bandes. Et ça, c'était vraiment très sympa. Bon, comme on a parlé de clubs français, on va On va se diriger vers la Ligue 1. La Ligue 1 qui a repris ce week-end. 8 points d'avance pour le PSG après sa victoire 2-0 face à Lens hier soir à Lens. Un but, donc je le disais tout à l'heure, de Kylian Mbappé. Un but de Bradley Barcola. L'an prochain, c'est 3 clubs français qui sont directement qualifiés pour la Champions League et le 4e qui disputera le 3e tour qualificatif. Samuel, le PSG engrange les points. Derrière eux, c'est ça stagne. Le verdict a été livré.
Bon, je pense qu'il n'y a pas tellement de doute sur le fait que le PSG va être champion. Et en fait, on se rend compte assez rapidement s'il démarre plutôt bien, qu'il n'y a pas trop de, le moteur n'est pas grippé. C'est juste une question de temps, savoir quand est-ce à quel moment de la saison ils vont être champions. La différence entre cette saison et les saisons précédentes, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'adversaires au niveau, je ne sais pas, mais enfin en tout cas d'adversaires majeurs. Lens a fait une saison extraordinaire l'année dernière, ce qui lui a permis de tenir la dragée haute au PSG pendant longtemps. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Nice est deuxième, mais Nice, on sait qu'ils sont réputés dans l'Europe entière, hein, même pour leur défense hyper solide, mais devant c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand
et
on
puis ils
peu,
ont perdu, ils ont perdu leur attaquant Terem Moffi qui est parti à la CAN, pardon.
Voilà. Et le troisième, surtout quand je regarde le classement, c'est Brest. Alors c'est toujours un club sympa, mais c'est vrai que quand vous avez Brest à la troisième place devant quelques cadors, Reims aussi est sixième. On a loué le travail de Will Steele. Ils ont une super équipe, ils jouent super bien. Mais c'est vrai que c'est des clubs qui, au maximum de leurs possibilités, ne sont pas en mesure, a priori, de venir chatouiller le PSG longtemps, à la différence de ce qu'on pourrait espérer de Monaco ou de Marseille. Je ne parle plus de Lyon, de Lille aussi, peut-être, dans une certaine mesure. Mais c'est vrai que tu as bien fait de préciser que la saison prochaine, comme la Ligue des Champions passe à 32 clubs, il y a 3 clubs qui sont qualifiés directement. Il y en a un qui va faire le tour préliminaire, ça rajoute une place par rapport à l'an passé et ça va relancer, en tout cas la course pour la deuxième place et la troisième va être féroce. Là, pour le coup, les positions sont plutôt resserrées et c'est vrai que on avait tendance à le dire, il y a un championnat avec le PSG d'un côté et le reste de l'autre. Là, ça risque d'être toujours le cas, on est à la moitié du championnat et voilà, ils ont déjà 8 points d'avance. Et bon, bah, a priori, je pense qu'avec Luis Enrique, il y a peut-être moins de risques qu'ils prennent les matchs à la légère. Certes, ils vont avoir l'esprit tourné vers la Ligue des Champions, mais je pense qu'ils feront quand même le boulot pour faire les matchs en championnat et continuer à grappiller des points d'avance sur leurs poursuivants.
Et pour revenir là-dessus, bon, malgré l'année dernière et la fin de saison qui a été vraiment catastrophique du côté du PSG, on a l'impression que cette année, cette équipe, elle est moins dominante.
Ouais, c'est vrai que
malgré les 8 points d'avance, hein, c'est un ressenti très étrange que j'ai quand je vois jouer le PSG, moi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas tellement de domination. Il y a moins de maîtrise. Il y a une très très belle maîtrise par phase, où on va avoir des actions où on sent que tout tourne vraiment très très bien, mais ils ont des moments où ils peuvent se faire vraiment fortement bousculer. Il y a un manque d'expérience aussi au milieu de terrain, notamment c'est quand Zaïre Emery, il n'a que 17 ans, il est formidable, mais Ugarte, qui est un très bon joueur, n'a pas non plus une très forte grande expérience du très haut niveau. Vitinha, il a fait une saison moyenne l'an passé. Quand Guindy vient aussi d'un club un peu plus bas, les Carlos Soler, Ruiz, ça manque d'expérience par rapport à ce qu'il y avait au Paris Saint-Germain l'an passé. Verratti, alors certes, il jouait en fumant Messi jouait lui en marchant et Neymar, il jouait quand il pouvait jouer. Mais ça faisait quand même une expérience sans commune mesure. Donc oui, ils sont moins dominants. Et parfois, les matchs sont, je trouve, alors que c'est le club que je supporte, les matchs sont un peu ennuyeux et on attend de la donner à Kylian Mbappé qui est extraordinaire. Donc, il peut changer le cours d'un match sur une accélération, une transmission et ensuite et ensuite mettre le PSG sur orbite. Mais voilà, je pense que ce manque de maîtrise ou de domination que tu soulignes, on l'a vu assez bien exprimé en Ligue des Champions, où le PSG a complètement pris la tasse contre Newcastle, a été aussi battu par le Milan AC. Tous les matchs à l'extérieur ont été très mauvais, et je pense que ça, c'est signe d'une équipe qui maîtrise moins bien.
Donc on le rappelle, le 14 février, un match contre la Real Sociedad, un match aller de 8e de finale de la Ligue des Champions. Alex, t'as un avis sur le PSG, toi ?
Ben, je le suis de très loin, comparé à vous, évidemment. Donc c'est déjà plus compliqué, mais le PSG, oui, c'est chaque année la même chose. Mais le PSG, pour moi, ça reste mon enfance avec Ngoti, Simonet, Casagrande, Letizy, les matchs mythiques à Riazor.
Ah oui, là, on a changé de microcosme.
C'est tout à fait autre chose. Mais voilà, moi, j'ai une bonne affection pour le PSG, comme tout le monde le sait. Mais voilà, cette année, moi, franchement, ça m'excite beaucoup moins. Mais bon, j'irai au parc pour les Jeux Olympiques. C'est déjà quelque chose de très bien aussi. Cette année.
C'est pas mal.
Et pour ce qui est du club qui est à jamais les premiers, Blaise, tu...
Oula.
Marseille.
Un but partout face à Strasbourg vendredi soir. C'est extrêmement compliqué. Beaucoup de joueurs qui sont partis à la CAN. Un joueur qui n'était pas titulaire à Beşiktaş qui arrive comme seul transfert, c'est très compliqué. Et on savait que Gennaro Gattuso n'était pas réputé pour son jeu léché. C'est très très compliqué. Le plus grand transfert du club à 35 millions d'euros, Vitinha, qui est l'attaquant de pointe, donc qui est vraiment, qui ne remplit pas son rôle. Et puis la seule petite satisfaction de ces dernières semaines, c'est peut-être Pierre-Emerick Aubameyang, mais bon, il a 35 ans et on peut pas se reposer sur ses épaules. Moi, je peux pas trop commenter le match de vendredi soir parce que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, par exemple, le match contre club que j'ai oublié en plus en Coupe de France était vraiment très très très
Thionville.
Thionville, voilà, c'est ça, l'US Thionville était très 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 poussif. Voilà, on va s'arrêter là.
Si tu veux, tu t'évoquais les absences, peut-être qu'on peut en parler maintenant des absences liées à la CAN et à la Coupe d'Asie, parce que comme on l'a dit, il y a pour une fois, enfin la CAN, c'est tous les deux ans. On sait que le mois de janvier est occupé par la CAN, et donc les clubs européens doivent le prendre en considération quand ils élaborent leur équipe. Cette année, il y a en plus la Coupe d'Asie. Alors ça concerne pas trop, pas tous les clubs, mais je faisais moi un petit point. Et c'est vrai que en France, notamment, l'Olympique de Marseille a 7 joueurs qui partent à la CAN. Et en fait, bon, l'Olympique de Marseille est dans le milieu de tableau, mais il y a un club qui doit être très inquiet, parce qu'il y a un club qui a 7 joueurs qui sont aussi partis à la CAN, c'est le 18e des derniers, Lorient.
Ouais. Ouais.
Et là, ça risque d'être l'impact que peut avoir cette compétition risque d'être très très fort sur un club comme Lorient. Les clubs, comprenez-moi bien, les clubs ne peuvent pas se plaindre de ça. Quand vous faites venir un avant-centre international africain une année de CAN, vous savez qu'il a de fortes chances d'être sélectionné, donc que vous le perdiez à ce moment-là, ben vous en avez quand même tiré profit en début de saison et puis après. Mais c'est vrai que quand il y en a 7 comme ça, ça fait beaucoup qui partent. C'est le cas, je pense que c'est... En France, Monaco, Reims de Will Steele a aussi 4 joueurs qui partent à la CAN et 2 à la Coupe d'Asie. Donc ça fait, quand vous commencez à avoir 6 joueurs sur l'effectif, et pas des moindres, puisque s'ils sont internationaux, s'ils partent à la CAN, sont a priori des titulaires en puissance dans vos clubs, et ça risque de faire des dégâts. Moi, je voulais savoir, à votre avis, en Jupiler Pro League, parce que je parlais tout à l'heure de l'Union, par exemple, perd Lazare, Amoura et Machida, donc un joueur par ligne. Genk, c'est Pencil, Fadera, El Canouz, KMB. La Gantoise, c'est également 4 joueurs. Vous pensez qu'il peut y avoir un impact sur les prochains matchs forts, en tout cas de nature à faire tourner la dynamique de l'équipe?
Oui, dès demain et mercredi.
Ouais.
Mais après, tu sais, hein, tu connais, avant la saison, tu sais exactement qui est susceptible exactement, d'aller à la CAN et qui ne l'est pas. Hein. Donc, c'est, pour moi, certains clubs, c'est des fautes professionnelles. Et tu prends le cas de Lorient. Soit Lorient fait une saison exceptionnelle, se retrouve dans le haut du classement comme Brest, comme Reims. Et là, les joueurs partent à la CAN et tu perds ta dynamique et potentiellement, tu perds des millions en fonction de la place qui te sera attribuée en fin de saison. Et ça se joue parfois à un point. Une Ligue des Champions, pas une Ligue des Champions, c'est parfois un point ou un but. En France. Voilà. Ou bien tu te retrouves dans le ventre mou et tu vas perdre des points, tu vas devoir regarder vers l'arrière. Ou bien là, tu es en pénurie de points, tu es vraiment dans la mouise et tu dois en prendre et tu ne vas pas en prendre, ou très peu, à cause de ça. Donc, il y a un directeur sportif qui connaît les règles ou qui est censé les connaître et qui doit les appliquer. Et ce n'est pas pour Lorient, c'est pour tous les clubs.
Et ça, ouais. Aussi, Samuel, pour revenir sur le cas du Paris Saint-Germain qui jouera donc le 8e de finale de Ligue des Champions le 14 février, potentiellement Achraf Hakimi a de grandes chances d'aller en finale. La finale est trois jours avant le quart de finale, le 8e de finale, dis donc, je vais m'y retrouver. Ça ferait que il y a pas de remplaçant arrière droit au PSG, ça fait que ils joueraient avec comme ils ont joué ce week-end en fait.
Oui, c'est ça. Il y a un déséquilibre dans ce club à certains postes quand même, puisque c'est Carlos Soler qui évolue à droite. Alors, il y avait Nordi Mukiele qui était a priori plutôt à droite, mais il est surtout bon, je crois, dans une défense à 3, plutôt côté droit, mais pour dépanner, pour jouer back droit, vraiment, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas si Luis Enrique ça va être le match aller, donc peut-être que si en fonction de la fatigue il le fera quand même pas jouer, ça peut être aussi, là je réfléchis tout haut, l'occasion, alors peut-être pas pour le PSG mais un club comme Lorient ou des clubs qui sont moins bien lotis, d'essayer de faire sortir des jeunes à ce moment-là. De toute façon ils n'ont pas tellement le choix, mais voilà, c'est vrai que le PSG lui il est plutôt bien loti, il y a Achraf Hakimi et il y a Kang In Lee qui part lui à la Coupe d'Asie, qui est à la Coupe d'Asie des Nations. Donc, ils ne vont pas être trop déplumés pour aborder la deuxième partie de championnat. Et effectivement, il n'y a pas d'arrière-droit remplaçant au PSG. Ça, c'est...
Mais le PSG aussi peut sortir un jeune. Et le jeune du PSG est censé être plus fort, avoir plus d'expérience, s'être déjà entraîné avec l'équipe première. Si y a un poste d'arrière-droit, tu ne sais pas faire rentrer un jeune, c'est que ton jeune, il est mauvais tout simplement. Parce que on te demande pas d'aller devenir leader de la défense ou d'aller jouer en 6 pendant 4 semaines. On te demande un poste d'arrière-droit qui est un des postes, je vais dire sans être péjoratif, des plus faciles sur un terrain de foot.
Et on, je pense que c'était l'année dernière où c'est Christophe Galtier qui fait jouer Warren Zaïre-Emery sur le côté droit et c'était... Il avait pris l'eau pendant tout le match face au Bayern Munich. On va passer d'un grand club à deux autres. Hier soir, en finale de Supercoupe d'Espagne. Bon, c'est pas la plus grande des compétitions, mais bon, c'était quand même un classico. Le Real qui affrontait le Barça, 4-1, triplé de Vinicius. Un but de Rodrigo et le buteur du Barça m'échappe. Est-ce que vous avez vu le match ?
Une partie, mais c'est du Real comme on le connaît en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire ou à analyser. Par contre, le Barça est extrêmement faible et ça me surprend.
Le Barça est extrêmement faible. Ouais. La défense du Barça sur bien deux des quatre buts, où c'est deux ballons dans leur dos. On a vraiment l'impression d'assister à des défenseurs amateurs, alors que bon, c'est quand même des gars avec un certain pédigré. Samuel, tu l'as vu toi le match ?
Je l'ai pas vu. J'ai vu le résumé, mais effectivement, je suis comme Alex, je suis assez surpris de la différence de niveau. Enfin, en tout cas, alors c'est vrai que le Real, c'est une finale. Le Real, à la différence de pas mal d'autres clubs, ne se loupe pas en finale. Il y a un trophée, même si ce n'est pas le plus prestigieux. Mais en face, il y a le Barça. Donc, de toute façon, ça décuple la motivation. Ils ont joué, c'est peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, peut-être, c'était Patrice Evra qui avait, alors que Manchester avait un petit peu joué avec Arsenal en les promenant sur le terrain, il avait dit on aurait dit 11 hommes contre 11 enfants. Bon, il y a, c'est pas, j'irai pas jusque là, mais il y a une maîtrise du côté du Real avec les Briscards, avec Toni Kroos, avec, même s'ils sont pas si vieux, mais Valverde par exemple, enfin au milieu de terrain, une assise qui est impressionnante. Bon, Jude Bellingham qui explose, et puis quand Vinicius est dans cet état-là, il réussit à faire des merveilles, et donc un triplé. C'est beau ce que fait le Real année après année. Moi je pensais déjà que Modric et Kroos, ouais, ça y est, ils allaient être mis à la cave par l'arrivée des Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Non, ils sont encore solides, ils gèrent parfaitement les efforts. Ancelotti est pas loin d'être peut-être le meilleur coach, en tout cas un des top 3 coachs du monde, donc il sait, je pense, parfaitement quand il doit faire jouer tel joueur, quand il doit le reposer. Je suis impressionné par le Real qui tous les ans est là, toujours au rendez-vous. Et oui, Barça, j'espérais un petit peu mieux, mais
Ancelotti, un des meilleurs coachs du monde. De l'autre côté, il y avait Xavi, très très grand joueur. La qualité de jeu était affligeante hier. Crédit éternel pour Xavi de par son passé de joueur.
Je pense surtout. Qu'est-ce qui touche s'il se fait virer et quand ? Parce que les finances du Barça sont au plus mal, et les rénovations au Camp Nou aussi, ça prend du temps, ça coûtera beaucoup plus d'argent, comme le Real Madrid, le Real qui a fini son stade d'ailleurs, mais une fois que le stade est fini, ça va rapporter 300-400 millions par an. Mais en attendant, le Barça a vraiment le couteau sous la gorge aussi pour ce genre de dépenses.
Ouais, c'est Deco qui l'a dit cette semaine, que le Barça n'était même pas en mesure de faire signer un joueur lors de ce mois de janvier.
Il y a toutes des tactiques. Tu prends le joueur en prêt que tu payes en 2024, 25, 26. Il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs solutions plus crédibles les unes que les autres. Donc ça ne m'inquiète pas nécessairement. S'ils ont besoin de joueurs, ils seront allés les chercher. Ce qui est plus inquiétant, c'est quel argent dépenser. Est-ce que tu veux changer de coach et qui viendrait aussi
pour revenir au Real Année après année, ils sont encore là. Vous les mettez dans les candidats potentiels à la Ligue des Champions ?
Oui, d'autres. Sans aucun doute. Et je le dis, j'ai revu mon analyse par rapport au début de la saison. Comme je le disais, je pensais qu'ils allaient avoir une baisse de niveau, parce que le poids des années commence à compter, mais ils ont parfaitement su instiller la dose de fraîcheur avec Jude Bellingham qui marche vraiment sur l'eau. Il est candidat au Ballon d'Or si les choses continuent comme ça. Il y a le jeune joueur, après il faut aller voir jouer, mais il y a le jeune joueur turc qui s'est blessé,
donc Arda Güler,
et qui revient. Je ne sais pas si le Brésilien Henrik il vient d'ores et déjà ou il vient la fin de saison peut-être, mais ils sont armés. Certes, ils ont eu des grosses blessures, les Courtois,
Militao,
ça fait du lourd, qui des joueurs lourds blessés. Mais pour autant, ce qu'ils gagneront, je sais pas, mais je les vois pas ne pas avancer tranquillement jusqu'en demi-finale.
Tu évoquais le cas de Jude Bellingham, cette adaptation fulgurante, c'est quand même assez impressionnant. Il est en termes de statistiques, il est sur les pas de Cristiano Ronaldo quand il est arrivé au Real. C'est peu dire.
Et puis ce qui est impressionnant, je trouve, c'est que arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était pas tout. Son poste n'était pas le même lorsqu'il jouait à Dortmund.
Il jouait beaucoup plus bas sur le terrain.
Voilà. Et là, le fait de le faire monter sur le jeu, quasiment, il joue en 10 derrière deux attaquants, c'est pas facile en tout cas pour moi c'était difficile d'anticiper qu'il serait aussi performant aussi rapidement dans le cadre en plus au Real Madrid. Donc il a tout bon, on sait que tous les clubs anglais étaient sur lui, tout le monde pensait qu'il allait sans doute aller en Angleterre en première ligue, et peut-être qu'il faisait une erreur d'aller au Real Madrid parce que peut-être que le costume ou le maillot serait trop large pour lui. C'est pas du tout le cas. Il est très très impressionnant, et ouais, non, je voilà, c'est pour moi une surprise, vraiment une surprise cette saison. Je le savais bon, mais à ce point-là, je ne pensais pas qu'il serait aussi bon aussi vite.
Mmh. On arrive à la fin. Alex, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire pour conclure cette...
Carrément un dernier mot.
Un seul.
Non, mais
un
seul. Pour le Real, non. Qui est-ce que tu vois d'autre, toi, pour cette Ligue des Champions? Il y a le Real, il y a Manchester City encore. Le Bayern, tu dois compter dessus, même si ce n'est pas folichon là, en Allemagne. Et que pour moi, Leverkusen est très intelligemment en train de filer vers un titre. Mmh. Les bases qu'ils ont... qui construit depuis 2 ans, enfin commence à résulter. Donc ça, chapeau d'ailleurs à Leverkusen.
Ouais. Et à leur coach Xabi Alonso, qui ne devrait pas faire long feu sur ce banc. Enfin, on verra. Ouais. Ça, ce n'est que mon avis. Samuel, un dernier mot?
Ouais, non, il ne faudra pas mettre le Bayern hors jeu. Pour autant, je vais juste revenir sur quelques petits transferts que je vois qu'on... Et donc Eric Dier de Tottenham a été prêté au Bayern, donc voilà, il se renforce un petit peu. Et Jadon Sancho, perdu complètement à Manchester United, retourne au Borussia Dortmund en prêt. C'est vrai que c'est un gâchis pour lui, parce que c'est un joueur, super joueur qu'on attendait, confirmant ses bonnes saisons à Dortmund. À Manchester, ça n'a pas été le cas. Et puis Tottenham a recruté en prêt Timo Werner, en provenance de Leipzig, ça peut remettre un peu d'intérêt. En Italie, quelques transferts. En Italie, j'ai pas vu grand chose d'hyper excitant, je dois dire.
On a parlé de Buchanan. Il y a Krulic qui est parti au Fenerbahçe, mais bon, ça, voilà. C'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent en Italie pour l'instant. Il reste encore 15 jours de mercato. Il est encore long ce mercato. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Samuel Cujas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.
Absolument. Merci beaucoup, Blaise, d'avoir pris les commandes. Tu l'as fait avec main de maître. J'en avais aucun doute. On se retrouve la semaine prochaine.
Alex Demeter, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et pareil, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci à
tous.
Toi, Blaise.
Avec plaisir, merci. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis sur Radio Judaïka. Le retour de l'information, c'est dès demain à partir de 7h pour l'actualité sur Radio Judaïka. La suite des programmes, c'est de la musique. Tout de suite, 1 heure de musique sans interruption publicitaire. Et vous retrouvez Eric Clapton, c'est compliqué à dire. I Shot the Sheriff. Bonne soirée, au revoir.